Le cabinet d'Eric Wong était situé dans l'un des vieux immeubles au cordeau encadrant le jardin du Palais Royal. Le chauffeur nous a laissé rue de Montpensier et on a traversé le square jusqu'à la galerie de Valois. Sous les arcades, au 102, j'ai cherché une plaque, un nom sur l'interphone. J'ai fini par presser la touche quatrième étage qui jouxtait le dessin d'une salamandre. Le battant s'est entrebâillé dans un claquement. Jules a poussé la porte avec le front, me l'a tenue par un réflexe professionnel qui avait des allures de galanterie. Puis il m'a précédé dans la pénombre fraîche du hall, s'est mis debout contre la grille ouvragée de la cage d'ascenseur pour appuyer sur le bouton. Mais c'était un système aux nouvelles normes tactiles et ses griffes dérapaient sur le pourtour. J'ai appelé la cabine à sa place. Il s'est remis à quatre pattes et m'a tourné le dos, apparemment vexé. Quand j'ai ouvert la porte, il est monté par l'escalier. Talon aiguille, blouse blanche échancrée, maquillage de plomb, la secrétaire ressemblait à une infirmière de film porno. Elle a dit bonjour au labrador avant de répondre à mon salut. « Le docteur Haussmann m'a expliqué l'urgence. Maître Wong vous recevra entre Yassim et chocolat. » C'était dit sur un tel ton de faveur que j'ai remercié chaleureusement. Elle nous a introduit dans la salle d'attente, un boudoir de cocotte 1900 où des vitrines exposaient les livres du maître en français, anglais, russe et chinois, avec les prix correspondants. Les animaux nous parlent, comprendre son chat, l'univers mental de votre chien, dialogue avec l'oiseau. J'ai pris place sur le seul siège inoccupé, un pouf de velours écarlate à grosses franges, entre le perroquet en laisse sur l'épaule d'un vieil élégant et le chihuahua tremblant qui se cramponnait au genou droit d'une femme en burqa. Le labrador, enroulé à mes pieds, s'est mis à gratter nerveusement le tapis de soie constellé de taches d'urine.
« Stress postnatal, lui aussi ?»
s'est enquis mon voisin, dont la veste chamarrée était assortie au plumage de son compagnon. J'ai répondu, pour gagner du temps, que Jules avait perdu un être cher. Sans se soucier de ma réponse, le petit vieux cambrai comme un matador m'a expliqué les difficultés de communication qu'il rencontrait avec son perroquet.
« Dis bonjour, chocolat !»
Sans le moindre son, l'oiseau a monté une patte pour se gratter le bec.
« Vous voyez, monsieur fait la tête. Il est devenu complètement asocial. J'ai beau lui mettre les chanteurs qu'il aime, il n'imite plus que les bruits de porte. »
J'ai compati en silence, moi aussi. Mon regard allait du hamster d'en face, d'enserré sur le doigt d'une jeune femme en larmes, au lévrier en alerte sous la chaise d'un acteur connu dont je ne trouvais plus le nom, en passant par le siamois à collier de perles qui tentait de griffer le tailleur de sa maîtresse à travers les barreaux de sa cage Vuitton. J'avais l'impression que la dizaine d'humains flanqués de leur animal en crise venaient suivre une thérapie de couple.
« C'est la première fois que vous consultez Wong ?»
m'a lancé l'homme au perroquet sur un ton de méfiance. J'ai hoché la tête d'un air contrit.
« C'est le meilleur comportementaliste d'Europe. Je viens de Lausanne une fois par semaine en ce moment, mais c'est lui qui s'est déplacé le mois dernier pour négocier avec mon cheval. Enguerrand du Marais, deux fois vainqueur de l'Arc de Triomphe. Il refusait de se laisser monter. Un simple malentendu, en définitive. On ne fait jamais assez attention à nos pensées.
« Yassim !» a modulé la secrétaire en passant la hanche dans l'embrasure de la porte. Un doigt ganté et monté se posait sous la fente grillagée, assurant la burqa à ventilation et visibilité. Le chihuahua s'était endormi. La secrétaire a souri avec compréhension et s'est tournée vers moi.
« Jules ?»
J'ai emboîté le pas au labrador qui, la queue basse, suivait la jeune femme qui nous a reconduits jusqu'au vestibule. Main sur la porte palière, elle a dit « Allez jouer dans le jardin. » Elle me tendait une balle. Comme je ne réagissais pas, elle l'a donnée au chien qui l'a prise délicatement entre ses dents. « Placez-vous devant la terrasse du restaurant, » m'a-t-elle précisé. « La phase d'observation est capitale pour un premier rendez-vous. 5 minutes suffiront. » J'ai suivi Jules qui dévalait l'escalier. Dans la poussière sableuse du jardin, je lui ai retiré sa laisse. Il a posé la balle rouge entre mes pieds, a reculé lentement en guettant mes mouvements. Je l'ai ramassé, je l'ai lancé façon boule de pétanque. Il a couru, bondi, pour la saisir au vol. Puis, avec d'infinies précautions, il l'a reposée à terre, comme pour désamorcer une bombe. Au-dessus de nous, au dernier étage, un reflet scintillait au coin d'une fenêtre ouverte. Sans doute le comportementaliste qui nous observait aux jumelles. Je me suis dirigé vers Jules pour ramasser la balle. Il a soudain fait volte-face et, d'une détente de la patte arrière droite, l'a renvoyé dans ma direction. Je l'ai regardé tomber à 3 mètres de moi. Il s'est mis à aboyer en me tournant autour. Il avait l'air de m'engueuler. J'ai relancé la balle. Il l'a regardé passer, puis m'a dévisagé, tête inclinée, en gémissant. Ensuite, il s'est couché sur le dos, les pattes repliées. Je me suis accroupi devant lui et je lui ai caressé le ventre. Je ne sais pas si l'on dit « ronronner » pour un chien, mais ça faisait le même bruit. Il a brusquement sauté sur ses pattes et m'a renversé à mon tour. Plaqué au sol, chatouillé par son museau qui fouillait ma chemise, je me suis débattu en essayant d'atteindre son mode d'emploi dans ma poche. Il m'a lâché aussitôt. Il est parti gambader dans les massifs, renifler le pied des bancs, se gratter contre un arbre, lever la patte sur le socle du petit canon qui, sa mèche allumée par une loupe que touchait le soleil à midi pile, servait jadis à régler les pendules parisiennes en tonnant, de mai à octobre, jusqu'à l'instauration du plan Vigipirate. J'ai regardé l'heure. Les 5 minutes devaient être écoulées. J'ai sifflé 3 fois, comme indiqué sur ma notice technique. Jules est arrivé à fond de train. Il a profité de la porte ouverte par une petite fille et sa mère qui s'en allaient en trimballant une tortue dans une essoreuse à salade. Boudant toujours l'ascenseur, il s'est rué dans l'escalier sans plus s'occuper de moi. Quand je l'ai rejoint sur le palier, il s'essuyait les pattes sur le paillasson, tandis qu'un motard lui examinait l'arrière-train, casque posé contre le mur. Ça devait être le SOS vétérinaire envoyé par 30 millions d'amis. Haussmann a bien fait de nous alerter, a-t-il dit en se relevant. Je tape le constat et on porte plainte. Bonne journée. Il a appelé l'ascenseur en dictant ses conclusions sur son téléphone. La secrétaire a ouvert au 3e coup de sonnette et nous a conduits directement dans le cabinet de consultation. Intéressant vos rapports, a murmuré Eric Vong en guise de bonjour, les mains dans le dos. C'était un ascète asiatique sans âge, voûté dans un long pull hors saison en cachemire violet. Nous nous rencontrons pour la première fois, Jules, a-t-il prononcé sur un ton de douceur concentrée, tout en s'asseyant en tailleur devant lui, la tête à sa hauteur. Sois le bienvenu dans ce havre de paix et d'harmonie. Le havre en question était une pièce à volets clos, tatami, jardin zen et lanterne en papier, nimbée d'une musique pour salon de massage. Une fontaine surmontée d'un ange à tête de serpent glougloutait à la lueur d'une bougie parfumée. Le thérapeute fixait dans les yeux le labrador qui soutenait son regard. Il semblait échanger des informations. La respiration haletante de Jules se calmait peu à peu, comme pour se mettre au diapason du souffle régulier qui creusait la poitrine de son vis-à-vis. Soudain, Vong a éclaté de rire. J'ai demandé pourquoi. Sans se retourner, il a claqué des doigts pour me faire taire, en indiquant le sol. Je me suis assis à leur niveau, contre le mur, et j'ai attendu la fin de leur tête-à-tête. Les images mentales qu'il m'a montrées confirment ce que j'ai vu par la fenêtre, m'a-t-il déclaré en se relevant avec une souplesse étonnante. Il vous traite comme un chien. J'ai protesté vivement, me rappelant que nous étions venus pour qu'il délivre à Jules un certificat de non-violence. Vous vous méprenez, m'a-t-il répliqué avec une fermeté courtoise. C'est laudatif, ce que je viens de vous dire. Il ne vous considère pas comme un humain normal, mais comme un égal, un collègue. C'est rarissime chez un guide d'aveugle. D'après ce qu'il m'a fait voir, vous les avez sauvés, lui et sa maîtresse. Je suis resté sans voix. Et puis je me suis dit que le docteur Haussmann lui avait simplement relaté notre rencontre à Orly. Mais il a ajouté Pourquoi vous ne voulez pas prendre le train ? J'ai recroquevillé mes orteils pour ralentir mes battements de cœur. Le plus neutre possible, j'ai décrit l'attitude de Jules à la gare Saint-Lazare. Il a stoppé de la main l'explication.
« Suivez-le sans vous poser de questions. Il ne s'en pose pas, lui. Il connaît la réponse.
Si j'avais dû consigner tous les cas où des animaux ont retrouvé leur maître à des centaines de kilomètres, parfois même dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas, mon œuvre ne tiendrait plus dans ma bibliothèque. Que représente cette plage où il court entre une jeune femme et vous ? C'est un souvenir ou un objectif ?
Au lieu de lui répondre, c'est moi qui me suis mis à le questionner.
« Vous lisez dans ses pensées ?»«
Non, c'est lui qui m'informe. Un seul grand principe, c'est notre désir de communiquer qui crée la liaison mentale. Les animaux n'attendent que ça, et le captent aussitôt. Leur grand problème, voyez-vous, c'est leur difficulté à se faire entendre. Ils assimilent notre incompréhension à de l'hostilité, à une punition. C'est l'origine de 70% des conflits que je résous. Les 30 autres, le stress de leur maître qu'ils absorbent et qui les dénature. Dans les deux cas, nous aboutissons à l'agressivité ou au dépérissement. Jules conjugue les deux, navré de vous le dire. Bien sûr, j'enverrai à Haussmann un certificat de complaisance. On ne va pas le piquer parce qu'il s'est fait battre. Mais si vous l'abandonnez vous aussi, ce chien deviendra dangereux.
J'ai senti une sueur glacée dans mon col. Il a repris de plus belle. Pour lui, le monde ne tourne plus rond, sauf vous. Il vous a pris à la fois comme référent et comme élève. J'ai fait remonter de la salive pour demander « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»«
Ce que j'ai vu par la fenêtre. » »«
Il vous a lancé la balle. » »« C'est plus qu'un hommage. C'est une marque d'allégeance mutuelle. Un acte de dominant à dominant. »« Mais vous ne savez pas jouer. » »« Alors, il a renoncé au jeu. » »« Il ne sait pas comment vous éduquer, ça le perturbe. » Mais il veut vous conduire jusqu'à sa maîtresse, car il sent que, désormais, c'est vous qui êtes l'assistant dont elle a besoin. Et son obsession, c'est de vous réunir.
J'ai dissimulé mon émotion sous l'ironie sceptique. Vous êtes sûr que vous ne faites pas un peu d'anthropomorphisme ? Il a relevé le menton avec une suprématie dévouée.
Si tel était le cas, les humains ne dépenseraient pas chez moi 400 € par consultation. Non, monsieur, je ne fais ni anthropo ni cynomorphisme. Je me contente d'écouter les vibrations animales. Je les convertis en langage intelligible pour le cerveau limité de mes congénères et, surtout, en réponse, je transmets leurs excuses.
Leurs excuses ?
L'animal est profondément sensible au mensonge, à l'injustice, à la trahison. La plupart des cancers qu'il développe sont issus d'une faute d'inattention de son maître. Et l'agressivité dont il fait montre est l'ultime recours pour en informer le coupable, quand tous les autres modes de langage ont échoué. La maîtresse de Jules, par exemple, quel est son nom ?
Il ne vous l'a pas dit ?
Je n'ai pas le temps de plaisanter, vous avez vu ma salle d'attente. J'ai accepté de vous glisser entre deux, allez à l'essentiel.
Alice.
Alice l'a trahi en devenant autonome, en ne voulant plus de son regard, alors qu'il est conditionné pour voir à sa place. C'est ce qu'il m'a montré. Mais vous, en le sortant d'une situation contre laquelle il n'était pas apte à la défendre, dans un aéroport, c'est cela, au moment de l'embarquement.
Oui.
Vous avez effacé l'injustice et la jalousie qu'il aurait éprouvée à cause de vous, si vous aviez marché sur son territoire. Là, il n'a plus de territoire. Donc, il vous donne Alice.
pour reprendre le pouvoir à travers vous, comme il vous a lancé la balle tout à l'heure. Mais si vous ne savez pas l'attraper, vous lui mentez. Vous trahissez l'espoir qu'il met en vous, l'espoir de récupérer sa maîtresse grâce au cadeau qu'il lui fait. J'ai dégluti pour demander d'une voix presque neutre. Il veut qu'on forme tous les trois une sorte de cellule familiale? C'est vous qui faites de l'anthropomorphisme. Il lui offre un nouveau chien, c'est tout. Pour continuer d'exister par votre intermédiaire. Il a joint les mains devant son nez avec un profond soupir. J'ai le même problème d'abandonnite avec Chocolat, le perroquet que vous faites attendre. Depuis que sa femelle a pondu, elle ne le voit plus, et leur maître est tellement fier de cette naissance chez lui qu'il en néglige Chocolat, qui, du coup, lui bat froid. D'autant plus que, sans trahir le secret professionnel, c'est un ancien jockey qui en veut à son cheval depuis qu'il n'est plus en âge de le monter, alors il a opéré un transfert sur son perroquet. Tout ce qui compte pour lui, c'est de le faire entrer dans le Guinness des records. Chocolat est très doué, il a appris 3000 mots pour lui faire plaisir, mais depuis qu'il n'est plus le centre du monde, il fait la grève des phrases. Et donc, pour en revenir à moi, il a marqué un temps d'arrêt comme s'il s'extrayait avec peine de la logique animale pour redescendre au niveau de l'incohérence humaine. Il a marmonné en détournant le regard. Le chien qui voyait pour elle. Il est allé s'asseoir à son bureau, a dévissé un gros stylo Mont-Blanc, sorti une feuille de papier en tête. Un labrador désaffecté qui forme un homme pour récupérer son ancien aveugle. C'est un excellent point de départ, un vrai cas inédit. Je vais essayer de le traiter. J'ai cru qu'il remplissait une ordonnance. En fait, il prenait des notes pour son prochain livre. Il ne m'avait pas fourni de solution au problème de Jules, mais il avait trouvé un sujet. Suivez son instinct, répondez à son attente, et il n'attaquera plus personne, a-t-il conclu au bout de 3 minutes en revissant son Mont-Blanc. Et n'oubliez jamais qu'un labrador, avant toute chose, est un chasseur, un retriever. Il vous rapporte à sa maîtresse. Soyez à la hauteur et tenez-moi au courant. Je suis reparti sans savoir si c'était un charlatan subtil, un médium de génie ou un simple opportuniste en quête d'inspiration. Mais il nous avait créé un point commun supplémentaire. Voilà que Jules allait se retrouver dans la peau d'un personnage de livre, le fruit du fantasme et de l'imagination d'un tiers. Le roman que j'avais inspiré à ma mère s'était vendu à 60 000 exemplaires, ma plus grande réussite sur Terre. Avec la notoriété de son auteur, le chien me dépasserait sans peine. Nous sommes remontés dans le taxi en attente. Le chauffeur a refermé son sudoku en me demandant la destination suivante. Son compteur affichait 84 €, et j'ai vérifié, avant de lui répondre, que la course serait bien facturée à la Fédération. Rue des Thermopyles, je m'attendais au pire, et je ne fus pas déçu.
« Tu as bien fait d'acheter un labrador, ces Marekumba, ils adorent l'eau !»
Et de fait, Jules nous a aidés, avec une joie éclaboussante, à éponger le parquet en se roulant dans les flaques. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée de Madame Berton. Avec ses 3 bigoudis bleus couleur de son peignoir en pilou, ma logeuse avait eu la mauvaise idée de monter aux nouvelles en tenant son chat dans les bras pour le soustraire aux gouttes qui tombaient du plafond. Dès qu'il a vu le chien, le matou a sauté vers lui en sifflant, tout gonflé, poil hirsute. Jules a pris peur. Il a bondi de côté vers la table basse où, dérapant sur la bâche de protection, il a renversé les cavaliers, pulvérisé les doigts en toile, les dunes en papier de verre, les mini-palmiers en plastique. À sa manière, il réitérait la prise de la smalade Abdelkader par les troupes du duc d'Aumale. En 3 secondes, la précieuse maquette gisait dans l'eau. Ravagée par les belligérants que nous tentions de séparer, Kumba et moi, en achevant malgré nous de saccager tout ce qui restait de Monsieur Berton. La trêve obtenue, nous avons découvert sa veuve inanimée sur le champ de bataille. SAMU, transfert aux urgences, irruption du propriétaire découvrant la sous-location illicite dont je profitais, refus de prendre en compte les sommes versées en espèces, sommation de libérer les lieux séance tenante sous peine d'expulsion manu militari, assortie d'une plainte pour squat et dégradation de biens. Les menaces de malédiction jusqu'à la 5e génération que lui martelait Kumba en réponse n'ont eu d'autre effet qu'un appel à police secours. J'aurais pu négocier, gagner un jour ou deux, une nuit au minimum. À quoi bon? Je ne suis pas un homme de préavis. Quand Gwendoline m'a licencié, j'ai quitté mon bureau dans les 5 minutes, n'emportant que mon ordinateur. Et puis, la brutalité de cette journée dégageait une certaine cohérence. Perdre en quelques heures le salaire mensuel et le logement qui le rendait nécessaire obéissait à une forme de logique. Un autre destin me réclamait. Ailleurs. Tout de suite. À quoi bon me faire attendre? Placé en version compacte dans un coin de la pièce pour se faire oublier, Jules me regardait remplir le sac à dos de 100 litres avec lequel j'étais arrivé ici 4 ans plus tôt. Un blouson, une veste, 2 jeans, 6 polos, des baskets de rechange, électroencéphalographe pour yaourt, mon MacBook, 6 livres introuvables emplis d'annotations et le reste de ma bibliothèque sur iPad. Je quittais cette longue et paisible escale aussi léger que j'y étais entré. Cela me procurait une sensation de fierté, de griserie, de confiance. Le respect de ma nature, le retour aux sources. Réel ou issu de l'imagination maternelle qui me tenait lieu de mémoire, mes origines bédouines reprenaient le contrôle de ma vie. Je n'avais plus qu'à racheter une tente et la planter à l'endroit de mon choix. Même si le dit choix m'était dicté par un chien. J'ai glissé son harnais et son sac de croquettes dans mon barda, j'ai bouclé les sangles avec un sentiment d'irrémédiable, et j'ai dit adieu à mes plantes aquatiques tassées dans des bassines au milieu de l'attirail sadomaso de Kumba.
« Quand tu ne sais pas où dormir, m'a-t-elle dit, tu viens leur tenir compagnie. Tu seras toujours le bienvenu, songe-y. Même si... »
Je l'ai rassuré d'un sourire en complétant sa phrase in petto, même si les hommes, pour elle, sont réservés aux heures ouvrables. Elle a enchaîné très vite.
« Mais quoi qu'il arrive, suis ta bonne étoile, ne t'en veux pas pour Madame Berton, d'accord? Si elle se fait résilier à cause de toi, je la recueille. »
Les mains serrées sur les bretelles rembourrées de mon sac, elle me secouait les épaules pour bien me rappeler qu'elle n'était pas dans ma vie qu'une source d'inondation. J'ai remercié, mais ce n'était pas le moment de m'attendrir. La nostalgie, en temps de crise, a toujours été ma pire ennemie. Il était 14h20. M'abandonnant à la laisse de Jules, je lui ai laissé le soin de nous mener à bon port. Il a descendu Raymond Losserand au pas de charge, pris la rue du Château, traversé la place de Catalogne en direction du boulevard Pasteur. Il n'avait pas droit à l'erreur. Ou il m'a amené direct à Saint-Lazare, confirmant du coup les facultés que lui prêtait son confident du Palais-Royal, ou bien il se plantait en chemin et je me rabattais sur l'option B. Au métro Pasteur, il a bifurqué à gauche, tournant résolument le dos à la gare. J'ai tenté de l'arrêter en lui expliquant son erreur d'orientation. Peine perdue. Mes ordres semblaient se heurter à une programmation impossible à modifier. J'ai renoncé à tirer sur la laisse qui l'étranglait pour rien. Il a remonté la rue de Vaugirard, accélérant l'allure en direction de la porte de Versailles. Au niveau de l'hôpital Gabriel Palès, il a stoppé d'un coup. Il s'est couché au pied d'un banc, tout heureux, comme si nous étions arrivés à destination. Dans un retour d'angoisse, je me suis dit qu'une complication ophtalmo avait entraîné l'admission d'Alice, contrainte d'annuler ses vacances au dernier moment. J'ai attaché le chien au montant du banc pour aller me renseigner à l'accueil, mais ces aboiements furieux m'ont laissé entendre que je faisais fausse route, et de fait, la pancarte du centre hospitalier précisait qu'il s'agissait d'un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. J'ai regagné le banc, je me suis laissé tomber entre deux fientes de pigeons et, la mort dans l'âme, j'ai appelé l'option B.
Zibal, oui, tu vas bien mon poussin, je suis en train de relire mes épreuves, je te rappelle demain.
J'avais juste une question pour ce soir, le canapé du salon, il est libre?
Pourquoi? Ne me dis pas que tu es à la rue, en plus!
Je me suis retenu de répondre, en plus de quoi? J'appelais à la rescousse, pas à la reprise des hostilités.
C'est juste pour une ou deux nuits, maman, le temps de me retourner.
Oui, oui, j'entends bien, sauf que Jean-Christian ronfle en ce moment. Je n'ai pas insisté. Partager le canapé avec son amoureux exilé du lit pour nuisances sonores, c'était au-dessus de mes forces. Je lui ai demandé, histoire de ne pas l'avoir dérangé pour rien, quel était le sujet de son prochain livre.
La solitude d'une mère qui découvre enfin l'amour à 73 ans, sauf que rien ne se passe comme prévu. Mais bon, si vraiment tu ne trouves pas d'autre solution, viens. J'enverrai Jean-Christian dormir chez sa fille.
C'était dit sur un tel ton de sacrifice admirable que j'ai pris un malin plaisir à lui répondre qu'elle allait adorer mon chien.
Ton quoi?
Un labrador de 40 kilos, très sage.
Et tu trouves que c'est raisonnable dans ta situation?
Ben, on me l'a offert. J'ai détaché la laisse du banc et j'ai caressé la tête de Jules avec la courroie de cuir tressée. Il a remué la queue poliment puis s'est remis à regarder vers la porte de Versailles.
Zibal, ôte-moi d'un doute, tu ne comptes quand même pas sur moi pour le garder pendant tes heures de travail?
Non, non, rassure-toi, j'ai perdu mon job. Elle a fait semblant de ne pas entendre, incriminant le bruit infernal des travaux chez le voisin. J'aime bien la placer en porte-à-faux par rapport à moi. J'aime bien la voir, symboliquement, me remettre à la poubelle et ressortir le conteneur sur le trottoir de l'ambassade. La seule vraie joie qu'elle me doit, c'est un succès de librairie. Je sais bien qu'inconsciemment, elle me reproche l'échec de tous ses livres suivants. Mais moi, ça me flatte. Être son meilleur sujet, ça me suffit. Du moins, ça me légitime. Elle peut me faire ce qu'elle veut, je suis à l'abri de toute culpabilité.
Ce n'est pas contre toi, mon poussin, mais avec ou sans chien, tu sais que je suis vraiment à l'étroit.
Le poussin est au courant. Habiter la rue la plus chère de Paris, ça réduit fatalement la surface. Depuis que sa pension alimentaire lui rapporte davantage que ses droits d'auteur, sa revanche sociale a consisté à passer de 150 mètres carrés boulevard de Clichy à 38 rue de Verneuil. Cumul des avantages. Tout pour l'adresse, et rien pour moi.
Parmi tous tes amis, tu dois quand même avoir des gens qui ont de la place, non ?
A-t-elle repris comme si j'abusais de sa générosité. J'ai failli répondre qu'ils avaient tous pris le parti de Gwendoline, mais ça ne la regarde pas. Si je comprends tout à fait qu'elle me blâme, je ne supporte pas qu'elle me plaigne.
Appelle mon amie Lucette Ancelet. Depuis qu'elle est seule, elle fait chambre d'hôte à Louveciennes.
Peut-être qu'elle accepte les chiens.
Comme s'il se sentait visé, le labrador s'est dressé brusquement. Après deux jappements qui avaient l'air d'un code, il m'a levé d'un coup de laisse. Puis il m'a entraîné à la rencontre d'un bus qui s'apprêtait à stopper devant nous. Le 80, porte de Versailles, mairie du 18e, via Saint-Lazare. Mon sourire a effacé le reste.
Je te laisse, maman. Bonne relecture. Sans surprise, sitôt le billet acheté, Jules m'a conduit droit jusqu'à la voie 26. Le prochain train pour Deauville partait à 15h33, mais les haut-parleurs l'annonçaient voie 24 pour raison de service. Aller expliquer ça à un chien. Impossible de l'arracher du quai où il avait ses habitudes. Alors, j'ai employé la technique Wong. Accroupi à sa hauteur, je lui envoyais une image mentale où je montais avec lui dans un wagon de la voie 24 qui nous amenait dans les bras d'Alice. J'ai répété 10 fois l'opération psychique, avec un succès assez relatif, m'a-t-il semblé. Pour seule réponse, j'obtenais des coups de langue, que je traduisais par « Tais-toi, fais-moi confiance, obéis. » Ce qui m'a aidé à le convaincre, je crois, c'est le flot de vacanciers à mouflets et planches de surf qui prenait d'assaut le quai voisin, tandis que le nôtre demeurait désert, malgré les haut-parleurs qui répétaient le mot « Deauville ». Il s'est endormi dès la sortie de Paris. Je n'en revenais pas de tout ce qui m'était arrivé en quelques heures, mais j'étais moins dépassé par le souk qu'il avait mis dans ma vie que par l'excitation que j'en retirais. Moi qui m'étais toujours laissé porter par les événements, réservant mon énergie à mes passions, mes inventions et mes lectures, je venais de prendre la première vraie décision qui engageait mon destin, et c'était de suivre un chien.